D'un texte que Mère Prieur vous a adressé lorsqu'elle vous a invité à cette journée portes ouvertes. Ce texte est une citation de Mgr Lefebvre qui date de 1969. Et je pense qu'il pourra me servir de fil conducteur pour les quelques propos que j'essaierai de vous adresser cet après-midi. Ce texte s'introduit de la façon la plus incisive qui soit, c'est une interrogation. Que devons-nous faire en définitive? C'est bien la question que tous nous nous posons, n'est-ce pas? Que faut-il faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous qui sommes catholiques, qui essayons d'être catholiques le plus fidèlement possible, que devons-nous faire en définitive? La réponse de Mgr Lefebvre est la suivante. C'est sur la foi catholique et romaine qu'il faut rebâtir la chrétienté. Il faut la rebâtir avec les principes qui ont servi à la construire. Comme l'avait dit très justement le saint pape Pie X, il y a eu une civilisation chrétienne. Elle n'est plus à inventer, elle a existé. Nous n'avons qu'à la faire revivre. Il ne faut pas hésiter à rebâtir la société sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement à notre morale, à notre vie publique, à notre vie familiale que Jésus-Christ. Donc, dans ce texte, vous voyez comme moi l'idée essentielle, c'est l'idée de chrétienté. Au fond, je vais essayer de voir ce que nous pouvons dire de la chrétienté dans une école comme celle-ci. Le propos que je vais tenir, si vous le jugez de façon purement humaine, va vous paraître dérisoire. En effet, j'ai l'intention de vous dire qu'une école comme celle des Sœurs de Pouilly est un bastion. Et vous me dites que c'est un bastion humainement bien fragile, bien faible, qui regroupe quelques dizaines, on arrive à une bonne centaine d'élèves, je crois qu'elles sont 120, il y a quelques religieuses, quelques professeurs, on ne voit pas vraiment un château fort, en tout cas. Si je vous dis, en insistant, qu'il s'agit d'un bastion pour reconquérir la société, c'est-à-dire pour la rendre à nouveau chrétienne, à la lumière de ce texte de Mgr Lefebvre, vous pouvez me dire, mais c'est insuffisant, c'est disproportionné, c'est dérisoire parce que, de fait, on ne va pas, depuis ce petit coin de la Bourgogne, on ne va pas reconquérir le monde, on ne va pas refaire la civilisation chrétienne telle que Saint Pie X se dit ici, cité par Mgr Lefebvre. Eh bien, pourtant, oui, la réponse est oui. Il faut savoir qu'une école vraiment authentiquement chrétienne est un bastion pour la reconstruction d'une civilisation chrétienne. Et comme vous le disiez, la sœur qui a lu la dernière citation de Mgr Lefebvre au terme du montage qu'on vous montrait après la messe, il est entendu que ce sera comme Dieu voudra et quand Dieu voudra, n'est-ce pas ? Il ne nous appartient pas de déterminer l'importance du rôle que peut jouer telle ou telle œuvre. Mais il n'empêche que toutes les œuvres catholiques de la tradition doivent être des bastions pour une reconquête, pour une réédification de la civilisation chrétienne. Je reprends cette phrase proposition par proposition, vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'essaierai de vous dire. Donc c'est sur la foi catholique et romaine qu'il faut rebâtir la chrétienté, ça ne fait pas de difficulté, bien sûr. Si nous n'avons pas la foi catholique et romaine, il nous est difficile de prétendre rebâtir la chrétienté. Et je crois que dans une maison comme celle-ci, où l'on enseigne précisément la foi catholique, mais aussi l'espérance et la charité, l'on a l'ambition, je ne dis pas la prétention, mais bien on a l'ambition, la fierté légitime de rebâtir cette chrétienté, tout à fait normale. Il faut la rebâtir sur les principes qui ont servi à la construire, c'est-à-dire que nous n'avons pas, comme le dit Saint Pie X, réinventer, on ne nous demande pas de réinventer une société sur un modèle inédit. les maîtresses qui sont ici, les religieuses qui enseignent dans cette maison, n'ont pas à faire preuve de créativité, non. Elles ont simplement à reprendre les principes qu'elles ont reçus du Père Calmel, de Mère Hélène, Monseigneur Lefebvre, et elles ont à transmettre, ce qui est d'ailleurs une partie de la devise de l'ordre dominicain, transmettre. Comme l'avait dit très justement le saint pape Pie X, il y a eu une civilisation chrétienne, elle n'est plus à inventer. Voyez-vous, lorsque vous ouvrez vos journaux, lorsque vous écoutez la radio, on vous dit que nous sommes dans un monde terrible, et c'est vrai, que l'avenir économique n'est pas spécialement rose, que l'avenir politique est particulièrement sombre, que l'avenir moral est tout à fait noir. Vous vous dites, mais quelles sont les solutions? Vers qui peut-on se tourner? Quelle personnalité va pouvoir nous donner le remède à tant de maux qui s'accablent, qui nous accablent et qui semblent s'abattre un petit peu sur notre société? Le pape Pie X disait, eh bien, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Il faut se tourner vers Jésus-Christ, c'est lui qui peut faire cela. Nous n'avons qu'à faire revivre cette civilisation chrétienne et il ne faut pas hésiter. Si nous avons à rebâtir cette société, ça sera sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement à notre morale, à notre vie personnelle, à notre vie familiale, à notre vie publique. Là aussi, si vous écoutez de façon un petit peu trop humaine le propos que je tiens, vous vous dites c'est dérisoire. Non, c'est dérisoire parce que pas imaginer une reconquête et une reconstruction de la civilisation chrétienne d'une œuvre qui semble si petite au départ, mais on peut se dire aussi, n'est-ce pas dérisoire, est-ce que nous aurons la possibilité de faire comprendre à nos contemporains que c'est sur Jésus-Christ que l'on doit rebâtir la société? Peut-être que le mot dérisoire n'est pas celui qui vous vient spontanément à l'esprit, mais un autre mot, un autre qualificatif, une autre épithète, c'est irréaliste. Je suis réaliste, papa, je ne vois pas, moi je ne vois pas, aller voir mon patron et lui dire, la solution je l'ai, c'est Jésus-Christ. Vous vous dites, il me fera enfermer tout de suite, c'est pas possible. Vous ne vous voyez pas disant à vos employés, si vous êtes chef d'une entreprise, ça y est. C'est Jésus-Christ. Ils vous diront oui, 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 bien sûr. Et vous lirez dans leur regard une inquiétude. Ils diront, oh là là, ils travaillent trop, il n'y a pas de doute. Sous-entendu, ils travaillent trop du chapeau. Alors, dérisoire, irréaliste, qu'est-ce qu'on peut faire de cette citation? Est-ce qu'elle est ainsi? Il faut que je vous dise d'abord, pour répondre à la première objection, celle qui voudrait faire croire que l'on ne peut pas rebâtir la chrétienté à partir d'une école dont les effectifs ne se comptent pas en milliers, dont le corps professoral n'est pas composé de centaines et de centaines de professeurs. Cette objection qui voudrait donc nous faire croire qu'il est impossible au fond de mettre en pratique cette affirmation de Mgr Lefebvre, qu'il est impossible d'adopter la solution qu'il propose, puisqu'il voit comme nous les difficultés dans lesquelles nous débattons, puisqu'il voit les maux qui s'abattent sur nous et qu'il propose Jésus-Christ comme solution. Nous disons « ça n'est pas possible ». Il faut que je vous donne la réponse que vous savez, mais que nous avons besoin de nous entendre rappeler périodiquement, régulièrement. Tout ce qui a été fait de sérieux et de profond et de durable dans la chrétienté a commencé de façon humainement dérisoire. Je vous disais ce matin dans le sermon que oui, au départ, c'était 12 apôtres. Pas 12 agrégés, pas 12 docteurs, non. 12, nous dirions aujourd'hui presque 12 manuels, 12 gens simples. un pêcheur, un contrôleur des impôts. C'était mal parti. On connaît. On aurait pu choisir des professions un petit peu plus gratifiantes. Mais enfin, ça s'est passé comme ça. Humainement dérisoire. Prenons un exemple qui nous touche, nous Français, d'un petit peu plus près. La reconquête de la France. La reconquête de l'identité nationale en France. Humainement dérisoire. Une bergère, une femme qui n'avait pas beaucoup d'instruction, qui ne savait pas grand-chose, et qui se met à diriger une armée, qui se met à gagner des batailles, et qui finit sur un bûcher. C'est grâce à elle que nous sommes restés ce que nous sommes. C'était humainement dérisoire. Quels exemples pourrait-on donner encore? C'est vrai que Dieu se plaît à humilier l'orgueil humain. Il est vrai que tout ce qui se fait, encore une fois, de profond et de durable, commence de façon très simple, très humble, très modeste, avec une grande économie de moyens, et que pour ceux de l'extérieur, pour ceux qui veulent voir tout de façon très, justement, très, très humaine, très, très efficiente, très opérationnelle, ça semble dérisoire. C'est pas possible, on n'arrivera pas. Bien, non. Cette école, parce qu'elle est justement une école chrétienne, est une école qui a des moyens modestes, qui a des effectifs modestes. Et c'est la preuve, c'est le signe, c'est la marque indubitable que nous avons véritablement ici à faire à une œuvre authentiquement catholique. Vous auriez mis vos enfants dans une école où se trouveraient, je ne sais pas, 1 500 enfants avec 300 professeurs. Je vous dirais, oui, humainement, ça semble efficient, ça a l'air opérationnel. Je peux vous dire, c'est chrétiennement dérisoire. Renversons maintenant la proposition. Oui. Ça n'est pas rassurant pour un chrétien que de voir ce genre d'établissement. Se dire, non, on ne commence pas ainsi. Jésus-Christ n'a pas commencé ainsi. Jeanne d'Arc n'a pas fait ainsi. On pourrait dire aussi la même chose, peut-être, de certaines congrégations qui ont commencé comme cela. Et on les a tellement trouvés dérisoires qu'on les a tournés en dérision. Les apôtres ont été moqués, on les a tournés en dérision. Jeanne d'Arc a été moquée, on l'a tournée en dérision. On l'a traitée de folle. Et nous aussi, il est certain que, vu de l'extérieur, on nous trouve un petit peu dérisoires et on nous tourne un petit peu en dérision. Heureusement, c'est ce qui nous rassure. S'il n'en était pas ainsi, nous pourrions nous demander si nous faisons vraiment l'œuvre de Dieu. Donc, première objection. La deuxième, vous disais-je, c'est est-ce réaliste? Est-ce que l'on peut vraiment proposer aux hommes de ce 20e siècle finissant et décadent, il faut bien l'avouer, obsédés, comme disait Mère Prieur, par les progrès matériels, de plus en plus de techniques et de moins en moins d'âme, n'est-ce pas? Une technique sans âme. La technique est là hypertrophiée, mais l'âme est complètement desséchée. Est-ce que l'on peut tenir ce discours aux gens qui nous entourent? Est-ce qu'on peut leur dire, sans immédiatement se voir ridiculiser, sans immédiatement se voir tourner en dérision? Et nous n'aimons pas, bien sûr, être ainsi ridiculisés. Je crois qu'il faut, dans un premier temps, bien évidemment, ne pas présenter la doctrine chrétienne de façon simpliste ou ridicule. Je vous parlais des contacts que vous pouvez avoir avec vos employés, si vous êtes chef d'établissement ou chef d'entreprise, ou les contacts que vous pouvez avoir avec votre patron, si vous êtes vous-même employé. vous demande pas d'aller les trouver avec un regard halluciné en disant j'ai reçu un télex de la Sainte Vierge, je vous assure, et c'est ça qu'il faut faire, non. Notre enseignement, le rappel de la doctrine qu'il nous est demandé de faire, repose sur une connaissance sérieuse, précise, du catéchisme, de la philosophie, de la théologie, de l'histoire, des lettres. Nous avons une civilisation chrétienne. On ne vous demande pas de faire part d'une hallucination personnelle. On vous demande simplement de transmettre les valeurs de la civilisation chrétienne, infiniment plus crédibles que tout ce que nous pouvons sortir de notre pauvre et pauvre fond. Pauvre et propre fond. Non, la civilisation chrétienne, elle a existé, comme le dit saint Pie X. Elle a laissé des vestiges superbes. Nous pensons bien sûr à ces cathédrales, nous pensons à ces monuments, nous pensons à ces écrits, nous pensons bien sûr à saint Thomas d'Aquin. Cette civilisation a existé et il faut qu'elle réexiste, il faut la faire revivre. Et elle revivra non pas parce que quelques excités décideront là de façon parfaitement arbitraire ou parfaitement gratuite, une espèce du cas ridicule, oui, ça y est, la civilisation chrétienne existe. Non, elle existera dans la mesure où chacune de vos familles la fera réexister. Dans la mesure où chacune des écoles chrétiennes la fera réexister, petitement, modestement, et il faut l'avouer, aux yeux humains, trop humains, de façon un petit peu dérisoire. Mais c'est ainsi que la civilisation chrétienne revivra, reviendra. Le père Calmel, dont je m'inspirerai, disait dans cet ouvrage, dont je vous recommande vivement la lecture, et dont j'ai parlé à vos filles hier soir, École chrétienne renouvelée, le père Calmel disait, c'est au chapitre 27e, Il y a toute une catégorie de personnes auxquelles il n'est pas besoin, il n'est pas nécessaire, il est même parfaitement inutile de parler de la chrétienté. Ça ne les intéresse pas. La chrétienté, ils s'en moquent. La chrétienté, c'est peut-être pour eux un souvenir, ça a existé, c'est du passé, mais ça ne reviendra jamais. Sont des gens pour qui la phrase « le Christ hier, aujourd'hui et pour l'éternité » n'existe pas. C'est le Christ hier et c'est fini. Voici ce portrait, n'est-ce pas, cette description, ce catalogue, si vous voulez, des gens pour qui la chrétienté, selon le père Calmel, est chose dépassée, réalité morte, inexistante. À ceux qui approuvent, pour le seul motif que c'est l'État qui les emploie, les mille et une méthodes en vertu desquelles l'administration se met à la place du père de famille, à ceux qui s'inclinent respectueusement devant toute célébrité littéraire, du seul fait qu'elle est célébrité, à ceux qui désirent la monopolisation et la fonctionnarisation de la médecine sous prétexte que les contagions seraient mieux évitées et que tous seraient très bien soignés sans distinction de pauvres et de riches, à ceux qui trouvent bon que les gens d'affaires, les vendeurs de livres ou de remèdes, les tenanciers de salles de spectacles et de bars n'hésitent pas à faire marcher de ceux qui accourent sous prétexte que cela rapporte de l'argent, et que sinon ils risqueraient de végéter, bref, à tous ceux qui s'accommodent aisément de la situation et de la civilisation présente, et qui acceptent de faire avec elle, tôt ou tard, ostensiblement ou en dessous, n'importe quel compromis, à tout cela, comment arriver à faire entendre ce que représente une chrétienté? En vérité, on ne saurait leur parler utilement qu'à partir d'une mise en question préalable des institutions actuelles, de l'esprit qui les anime et de la tournure qu'elles ont prise. Laissons donc de côté les deux premières objections que j'avais émises, qui ne sont pas les objections fondamentales. Le père Calmel, lui, donne l'objection fondamentale. Ce n'est pas parce que, extérieurement ou humainement, nos institutions sont modestes que nous devons nous dire que notre reconstruction est dérisoire et vouée à l'échec. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une chaîne de télévision, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les journaux qui tirent 1 million d'exemplaires, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des radios qui couvrent la planète, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des satellites qui arrivent à inonder de la pensée de Jésus-Christ la planète entière, que nous devons nous dire que nous ne pourrons jamais reconstruire. Je crains bien que le jour où nous aurons ces choses-là, nous cesserons de vraiment nous mobiliser, de véritablement nous serrer les coudes, nous nous démobiliserons et nous perdrons cet esprit de croisade qui doit nous caractériser. Encore une fois, la technique, bien souvent, fait perdre cette âme combative, cette âme de croisade, de plus en plus d'avoir, de moins en moins d'être. Vous le savez comme moi. Donc je laisse de côté cette première objection. Vous savez comme moi la réponse que je viens de vous donner. Humainement, tout ce qui est chrétien paraît dérisoire. 12 apôtres, c'était dérisoire. Jeanne d'Arc, c'était dérisoire. Le séminaire des Côtes, c'était dérisoire. Tout cela, au départ, c'est toujours dérisoire. Deuxième objection que je balais aussi parce qu'elle n'était pas vraiment bonne. C'est celle qui consistait à vous dire, mais on n'arrivera pas à présenter cela, vous nous voyez, nous, présentant la feuille de mère prieur, là, demain matin, au travail, en disant, il faut que Jésus-Christ règne, il faut que la société soit bâtie sur Jésus-Christ, on n'y arrivera pas, on n'a pas les arguments, de toute façon, ils ne nous écouteront pas, ils ne veulent pas nous écouter. Nous savons, depuis le début aussi, que le monde ne veut pas entendre ce genre de discours. Ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Il ne faut pas s'en formaliser, il ne faut surtout pas s'en effrayer, et ça ne doit pas nous faire baisser les bras, au contraire. La vraie objection, elle est là. Et cette fois-ci, elle ne s'adresse pas à un interlocuteur imaginaire. Elle ne s'adresse pas à un employeur ou à un employé que vous verriez demain. Elle ne s'adresse pas non plus à ces hommes qui peuvent, avec un sourire un petit peu sarcastique, avec un rictus marqué par une certaine ironie, vous dire « Oui, ça est bien gentil, mais enfin, vos prêtres en soutane et vos religieuses en habit, ça n'est plus tout à fait dans le coup, c'est un petit peu en dehors de ce qui se fait maintenant. » L'objection que le père Calmel pose ici s'adresse à nous. Est-ce que nous faisons partie de ces gens à qui l'on peut parler de la chrétienté? Ou est-ce que nous sommes complètement chloroformés, anesthésiés? Est-ce que nous sommes de ces gens, effectivement, qui considèrent, qui trouvent bon que les gens d'affaires, les vendeurs de livres ou de remèdes, les tenanciers de salles, de spectacles et de bars n'hésitent pas à faire marcher de ce qui a cours sous prétexte que cela rapporte de l'argent et que sinon, eh bien, nous risquerions de végéter. Est-ce que, en un mot, nous nous accommodons aisément de la situation et de la civilisation qui nous est faite, qui nous est proposée, qui nous est même imposée? Voilà la question qui se pose. Et vous vous dites, mais il s'éloigne de son sujet, on était venu pour parler d'une école. Mais oui, mais cette école s'inscrit dans le cadre de cette reconquête. Et les gens qui président aux destinées de l'enseignement et de l'éducation qui est donnée dans cette maison ont la légitime ambition de recréer cette civilisation chrétienne. Parce qu'ils ne s'accommodent pas aisément de la civilisation et de la situation qui nous est ainsi proposée, imposée. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'elles ne veulent pas ici plus précisément, ostensiblement ou en dessous, n'importe quel compromis. Mesdames, messieurs, vous-mêmes, vous ne comprendrez vraiment ce qui se fait ici et dans toutes les écoles à tradition que si vous vous rangez dans cette catégorie-là, que si vous vous dites je ne veux pas, moi, collaborer à la destruction de la civilisation chrétienne. Je ne veux pas que l'on me trouve ostensiblement ou en dessous complice de ce travail de destruction, de ce travail de sape de la civilisation chrétienne. Non seulement j'entends ne pas être complice, mais je veux, qui plus est, stopper, freiner, arrêter autant que possible, en tant que père ou mère de famille, en tant qu'employé de bureau ou en tant que chef d'entreprise, peu importe, je veux essayer de travailler à la reconstruction de cette civilisation chrétienne. Dès lors que vous êtes intimement persuadé que votre rôle en tant que chrétien, que parent chrétien, est de ne pas faire crier avec les loups, mais au contraire d'essayer de lutter contre ce travail de destruction révolutionnaire, vous êtes, je puis le dire, les alliés de tout ce qui se fait ici. Vous comprenez parfaitement tout ce qui se fait dans cette maison. Il est bon que nous éclairions un tout petit peu, le père Calmel le fait, mais je vais utiliser un autre texte tiré du cardinal Pi. Il est bon que nous sachions tout de même un peu ce que c'est que la chrétienté et ce que c'est que l'anti-chrétienté. La civilisation anti-chrétienne. J'insisterai avec une certaine vigueur dans la peinture de cette civilisation anti-chrétienne. Vous avez comme moi, pour peu que vous ouvriez les yeux, les oreilles, vous avez comme moi quelque aperçu de cette civilisation. Mais vous la voyez, cette civilisation, de façon morcelée, partielle, parcellaire. Vous n'avez que quelques échantillons. Vous vous promenez dans la rue comme moi et vous voyez une affiche pornographique, ça vous choque, ça vous heurte. Vous vous dites, c'est pas normal que mes enfants, qui ont 8 ans, qui ont 10 ans, voient ça. Il y a, comment dirais-je, une répulsion normal, votre cœur paternel, maternel se révolte, vous avez là comme un haut cœur spirituel, vous vous dites c'est pas possible. Vous allez acheter votre journal et vous voyez qu'il y a là des magazines immondes et que c'est vendu, que c'est exposé, que même un enfant de 12 ans peut acheter ça avec la complicité d'un vendeur pas très exigeant, pas très regardant. Bien. Mais ça n'est qu'un aspect. Vous ne voyez pas, à travers ces petits éléments, même en les mettant bout à bout, vous ne voyez pas une civilisation, une anti-civilisation chrétienne. Vous ne voyez pas une structure parfaitement organisée qui a pour but de saper de façon méthodique la civilisation chrétienne. C'est de cela dont il faut que nous parlions ce soir. Si vous voulez comprendre un tout petit peu ce que c'est qu'un établissement d'enseignement et d'éducation authentiquement chrétienne. Le père Calmel, vous disais-je, donne quelques idées de ce que c'est que l'anti-chrétienté, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Marcel de Corte, lui, dit... philosophe belge, il parle, lui, de dissociétés ou de termitières, pour vous montrer que ce sont des sociétés complètement atomisées, qui n'ont plus de structure organique, qui font que chacun, là, vit dans son coin, chacun pour soi, dans une espèce d'égoïsme, d'égocentrisme et de nombrilisme morbide. On ne saurait parler utilement, dit le père Calmel, de chrétienté, qu'à ceux qui veulent bien admettre que les institutions actuelles, au moins un certain nombre, représentent une antichambre de l'enfer, plus ou moins bien climatisée, parce qu'elles sont des institutions opposées au droit naturel. Elles légitiment ces institutions antichrétiennes. Elles légitiment, elles autorisent, elles couvrent de leur autorité des actes et des attitudes qui sont une offense au Créateur et au Rédempteur de l'humaine nature. Alors qu'une cité qui mérite le nom de chrétienne, une chrétienté, doit être conforme au droit naturel digne de Dieu, digne de l'homme, inspiré par l'enseignement de l'Église, et permettre à l'homme de gagner le paradis. Le père Calvel, lui, voit donc des institutions, non pas simplement des faits qui vous choquent et qui vous scandalisent, mais vraiment des institutions. J'insiste beaucoup sur cela, parce que, vous voyez comme moi, ces faits. Ils vous choquent comme moi. Ils vous scandalisent comme moi. Mais vous vous dites, ce sont des faits isolés. J'ai vu telle affiche. J'ai entendu parler de telle émission qui a été scandaleuse à la télévision. J'ai entendu dire qu'un homme politique avait tenu des propos immondes. Bon, mais ce sont des faits. Et parce que ces faits sont séparés dans le temps et dans l'espace, vous êtes comme rassuré. Vous dites, après tout, ce ne sont que des éléments épars. Je voudrais, mesdames, messieurs, que nous réunissions ces éléments et que nous voyions bien que ces éléments font partie d'un tout, d'une structure, et que cette structure s'appelle la dissociété, s'appelle la termitière, et s'appelle l'antichrétienté. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, vous aurez deux types d'attitudes en sortant d'ici. Vous verrez les choses selon un double point de vue. Premier point de vue, en vous disant, bien, nous avons entendu un prêtre, qui, comme tous les prêtres, à agiter l'épouvantail qui doit faire peur aux laïcs, qui nous a fait croire que le monde dans lequel nous étions était un monde effroyable, épouvantable, et que c'était l'apocalypse ce soir. Il nous a fait son cinéma. C'était le spectre clérical qui arrivait là, comme d'habitude. Mes frères, je n'ai rien, j'espère, aux yeux d'un épouvantail. Et je ne veux pas que vous ayez l'impression que c'est dans une espèce de surenchère littéraire, une espèce de boursouflure rhétorique, que je suis là en train de vous dire « c'est catastrophique, méfiez-vous ». Non, je crois que par vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a des choses extrêmement graves et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, on n'a pas besoin de vous faire peur. Comme cela. Je ne cherche pas personnellement ce soir à vous effrayer, je ne veux absolument pas vous paniquer, au contraire, je préférerais vous mobiliser et que vous voyez bien où est la cible qu'il faut viser. Deuxième attitude, une fois écarté donc cette façon dont on a un peu trop facilement l'habitude de se débarrasser les discours que tiennent les prêtres en disant, après tout, ils ont un peu forcé la note, on peut exagérer, ils ont, comment dirais-je, noirci à plaisir le tableau, évidemment, le costume qu'ils portent ne peut que déteindre sur la vision qu'ils ont des choses. Une fois donc débarrassé de cette objection, passons à la seconde, vous pouvez vous dire, bien, ce sont quand même des faits épars. Ce sont des choses regrettables, on ne le nie pas, on n'approuve pas, on n'est pas complice, nous n'utilisons pas les minitel roses, nous n'avons pas envie d'approuver l'avortement, nous luttons même contre l'avortement, ce que disait ici le père Calmel déjà en 56-57, n'est-ce pas ? Il parle d'institutions qui légitiment, c'est-à-dire qui légalisent, qui autorisent et qui couvrent de leur autorité légale des actes et des attitudes qui sont une offense au Créateur. Quoi de plus offensant pour le Créateur que de tuer un enfant dans le sein de sa mère? Et c'est de façon légale. Et c'est même remboursé par la Sécurité sociale maintenant. Bon, vous vous dites, mais tout ça sont des faits. On ne peut quand même pas exagérer. Ça reste quand même un peu isolé. Et dans cet isolement, vous vous rassurez. Vous vous dites, non, on ne va pas, parce qu'il y a là, effectivement, quelque chose qui ne va pas, et puis là aussi, quelque chose qui ne va pas, puis là encore, quelque chose qui ne va pas tout à fait. On ne va pas dire que tout est mauvais, que tout est catastrophique. On ne peut pas arriver, donc, à cette structure, on ne peut pas arriver à cette définition d'une antichrétienté. Alors, pour vous aider à le faire, et pour vous empêcher de vous rassurer, je voudrais vous lire ce passage du cardinal Pie, qui a pour but de vous montrer que l'antichristianisme n'est pas un épouvantail ou un spectre que l'on agiterait, que ça n'est pas non plus une série de faits épars, et que c'est vraiment une structure méthodiquement et organiquement liée, qui a été fondée à un moment précis dans notre histoire et qui se développe selon un plan tout à fait net. Et que seuls ceux qui veulent vivre dans une cécité volontaire, bien sûr, ou que ceux qui veulent, comment dirais-je, plonger dans une espèce d'amnésie rassurante, vont récuser, refuser, rejeter. Voici ce que disait le cardinal. Qu'est-ce que c'est que le monde? Ce monde qui ne veut pas du Christ. C'est celui dont les représentants, dont les autorités ont dit à une période bien précise de l'histoire, une phrase historique, Nolumus hunc regnare super nos. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas positivement du Christ roi. Alors bien sûr, vous pouvez vous boucher les oreilles, vous pouvez vous fermer les yeux, vous pouvez oublier ces phrases, il n'empêchera que cette phrase existe, qu'elle a été prononcée par des hommes à une période donnée de l'histoire de l'humanité. Et que ces hommes, non seulement ont prononcé cette phrase, mais ont fait en sorte que cette phrase ne reste pas une phrase, mais qu'elle devienne un programme, et ils ont fait en sorte que ce programme se réalise. Et il se réalise tous les jours, un petit peu plus, un petit peu mieux. Et ceux qui sont frappés d'amnésie, et ceux qui sont frappés par une cécité volontaire, ou par une surdité volontaire, ces gens-là sont objectivement alliés de ceux qui veulent que le Christ ne règne pas. Qu'est-ce que c'est donc que ce monde? Le cardinal Pie le définit de la façon suivante. Par opposition au christianisme, par rapport à la chrétienté. Le christianisme, dit-il, c'est l'édifice de la grâce s'élevant sur les ruines de la nature déchue. Nous avons tous été marqués par le péché originel, Saint Jean nous l'a dit, nous sommes marqués par la triple concupiscence, il y a en chacun de nous la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie. Il y a la sensualité, il y a l'amour des richesses et la curiosité, et puis il y a cette vanité, cet orgueil. Bien. Le christianisme, la chrétienté, met en place des institutions qui ont pour but de neutraliser cette triple concupiscence, de faire en sorte que rien légalement ne vienne favoriser la sensualité, l'amour désordonné des biens de la terre ou de la technique, et encore moins de l'orgueil. Vous savez maintenant ce que c'est que l'antichrétienté. C'est celle qui légalement, institutionnellement, constitutionnellement, va favoriser la triple concupiscence. La sensualité. Et là, nous en avons des preuves à l'appel. Je ne parle pas de la pornographie, mais on peut parler de l'avortement, on peut parler de la contraception, on peut parler de quantité de choses. On va favoriser l'amour de cette terre, faire en sorte que les gens s'enlisent dans les réalités de cette terre et on arrive à oublier tout ce qui est au-dessus de la terre. Ils en arrivent à oublier qu'il y a des réalités qui ne passent pas. Ils arrivent à oublier qu'il y a des réalités éternelles. Et puis on va favoriser tout ce qui peut être, et là c'est surtout au plan doctrinal, c'est surtout dans les écoles, dans les universités, on va favoriser cet orgueil de la vie, cet orgueil de l'esprit, et leur dire ce que une créature avait susurré au début de l'humanité, Genèse 3, vous serez comme des dieux. Je continue ma citation. Or le monde moderne, c'est la nature reprenant fastueusement ce qu'elle appelle ses droits, les droits de la nature déchue, de la nature marquée par la triple concupiscence, et étalant hautement ses titres, dilatant sans réserve ses moyens d'action et de jouissance. En 1853, si je ne m'abuse, que ce texte ne trouve pas son illustration parfaite à la fin du XXe siècle. Étalant hautement ses titres, dilatant sans réserve ses moyens d'action et de jouissance. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie, voilà la triple puissance que le christianisme entend briser. Or, le monde moderne, l'anti-chrétienté, celle qui ne veut pas que le Christ règne. Le monde moderne a cassé ce triple anathème et des trois choses renversées par le Christ, parce que c'est effectivement le sacrifice rédempteur du Christ qui nous a permis de renverser cette triple concupiscence et de lutter efficacement contre elle, eh bien, des trois choses renversées par le Christ, l'antichristianisme fait la triple colonne du temple de l'humanité émancipée, le trépied de la chair où elle trône et d'où elle rend ses oracles. Prêtez l'oreille à ses enseignements et vous reconnaîtrez qu'elle a ses dogmes, sa morale, son culte, ses sacrements, ses béatitudes, son ciel, son enfer, qui forment l'exacte contrepartie de tout le système chrétien. L'anti-chrétien, ça existe. Et ça existe de façon systématique, organique, méthodique. Encore une fois, ne me dites pas, non, ce sont des éléments, vous exagérez. Non, ça existe. Et plus ce siècle avance, plus ce millénaire s'achève, plus nous voyons, n'est-ce pas, cette synthèse s'opérer. Et elle était difficile à saisir, cette synthèse, il faut le reconnaître, encore il y a, semble-t-il, 20 ans ou 30 ans. Maintenant, c'est de plus en plus net, de plus en plus clair. Il y a ensuite un paragraphe où le cardinal Pi, avec beaucoup de lucidité, dit bien sûr qu'on peut constater dans ses ennemis du christianisme, on peut constater des divergences, des oppositions. Il fait là allusion à cette opposition qui, curieusement, est en train de disparaître sous nos yeux, là, depuis 2 ans. Position, n'est-ce pas, entre une forme de style de sensualisme repu qui jouit et qui veut conserver, et puis de sensualisme affamé qui conspire et qui veut partager. Pour faire court, si vous voulez, une opposition entre une forme de esprit de jouissance, esprit matérialiste, libéral, et puis une forme de socialisme revendicateur, perpétuellement insatisfait. Mais cette opposition a tendance à s'estomper aujourd'hui, vous le savez mieux que moi. Cependant, dit le cardinal Pi, cette opposition est factice, elle est artificielle. Ils sont d'accord. Et les repus et les affamés, ils sont d'accord contre la chrétienté. Toutes ces nuances savent se rapprocher, se fondre, dit-il. Toutes ces lignes aboutissent dans un cadre commun. Toutes ces diversités se relient dans un même symbole, un même credo, si vous voulez, se rencontrent dans un même programme, à savoir la supplantation, le remplacement de l'élément révélé par l'élément humain. Nolumus dunc regnare superbos. Nous ne voulons pas que ce Christ, qui est venu nous révéler les mystères de Dieu, nous ne voulons pas qu'il règne. Donc l'élément révélé doit être balayé, pulvérisé, et il doit être remplacé par l'élément humain. La substitution, et là vous allez me dire, mais c'est pas possible, parce que ce texte n'est pas du cardinal Pi. Pourtant, je le lis tel qu'il est sous mes yeux. La substitution des droits de l'homme aux droits du Christ et de son Église. Et cela, l'Église le dit depuis la Révolution française. Elle dit que les droits de l'homme ne peuvent pas, ne doivent pas, et que les chrétiens ont le devoir d'empêcher que les droits de l'homme supplantent, remplacent, se substituent aux droits du Christ. Triomphe, dit encore le cardinal Pi, du naturalisme sur le christianisme. Vous savez ce que c'est que le naturalisme ? C'est ce système qui veut que la nature humaine, et elle seule, et par ses seules forces, permette à l'homme d'atteindre sa fin. C'est celle qui veut se dispenser de la grâce. C'est celle qui pense que l'homme n'a pas besoin de la grâce apportée par Dieu sur la croix pour atteindre sa fin. Le naturalisme, c'est ce système qui dit l'homme est à lui-même sa propre fin et il n'a pas à se référer à une fin qui lui serait extérieure et supérieure. Il n'a pas à se référer au Christ. Nolumus unc regnare supernos. Aussi trouve-t-on, et je termine par cette phrase, aussi trouve-t-on de toutes parts le même patois sur toutes les lèvres, la même fièvre dans toutes les âmes. Civilisation, progrès, conquête de l'humanité, industrie, technique, spéculation, agiotage, émancipation de l'esprit et de la chair, sécularisation de la loi et du pouvoir, et Dieu sait si nous vivons dans un pays où la loi est particulièrement sécularisée, sécularisation de la loi et du pouvoir, que sais-je, complétez un peu cette énumération, et vous aurez, dit le cardinal Pi, tout le bagage de mots, d'idées et d'aspirations qui font un homme de ce temps, véritable antipode de ce qui constitue la doctrine, la morale et la discipline chrétienne. Mes frères, dans cette école et dans toutes les institutions où l'on éduque chrétiennement les âmes qui sont confiées à des religieux, à des religieuses, à des maîtres, à des maîtresses, à des professeurs, dans ces établissements, nous ne voulons pas être complices de ça. Nous ne voulons pas que l'on puisse dire « ils ont été les complices, ils ont été les alliés » Volens, nolens, le sachant ne le sachant pas, le voulant ne le voulant pas, ils ont été néanmoins les complices de cela. Nous ne voulons pas être les complices de cette destruction de la chrétienté. Bien au contraire, nous voudrions être humblement, modestement, les artisans d'une reconstruction. La reconstruction de la chrétienté. Je reprends cette phrase qui sert de fil conducteur à mon petit exposé, à ma petite causerie de ce soir, n'est-ce pas ? Phrase de Mgr Lefebvre inspirée de Saint Pie X, « Il faut rebâtir la chrétienté ». Cette phrase n'est pas pour nous un ensemble de caractères d'imprimerie qui viendrait marquer une feuille de papier. Cette phrase est pour nous un mot d'ordre qui est imprimé dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous pensons que nous avons cette obligation-là et nous pensons que nous avons cette obligation-là avec vous. Nous n'allons pas faire ces choses-là sans vous ou malgré vous ou à côté de vous ou dans votre dos. Il faut rebâtir la chrétienté. Il faut la rebâtir, dit Saint Pie X, avec les principes qui ont servi à la construire. C'est-à-dire qu'il faut retrouver ces principes. C'est-à-dire qu'il faut, lorsque l'on étudie l'histoire de France en particulier, ou lorsqu'on étudie la philosophie, il faut retrouver les principes qui ont servi à établir une chrétienté où la loi n'allait pas contre la grâce, où la constitution institutions où les institutions ne s'opposaient pas à la vie de la grâce dans une âme. Ou au contraire, ces institutions favorisaient la vie de la grâce dans les âmes. Alors, nous scrutons saint Thomas d'Aquin, nous l'étudions, nous le méditons, parce que nous nous disons, oui, voilà, voilà quelqu'un qui a su ce que c'était qu'une intelligence au service du Christ. Une intelligence qui pouvait dire, Volumus, nous voulons qu'il règne sur nous. Cette civilisation a existé, elle n'est plus à inventer, il faut la faire revivre. Et nous la ferons revivre sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes ainsi faits, je voudrais à nouveau revenir sur une objection. Non pas une objection dont j'ai déjà parlé, ou alors si j'en ai parlé de façon allusive au tout début. Je voudrais, en vous lisant un texte du Père Calmel, essayer de faire disparaître une espèce de prétexte que nous baptiserions hâtivement une bonne excuse pour nous dispenser de ce travail de reconstruction et ce travail de collaboration avec les professeurs qui éduquent les enfants que nous leur avons confiés, vos enfants. Voici ce que dit le Père Calmel à la page 167. Bien sûr, dit-il, il y a l'anti-chrétienté repérable immédiatement, encore qu'elle ait tendance depuis quelques années à s'effriter. Il y a le régime politique qui se veut athée, c'est le communisme. Père Calvel dit, sans parler du communisme qui rêve d'un monde athée et rejette inflexiblement Dieu et sa loi, de la vie et du travail des hommes, il existe chez les chrétiens un état d'esprit qui méconnaît l'essence même de la chrétienté et décourage de travailler à sa réalisation. Si je soulève avec le Père Calvel cette objection, c'est que, comme je vous l'ai dit, je voudrais que nous sortions tous de cette petite causerie mobilisée, que toutes nos énergies, n'est-ce pas, soient concentrées, que nous nous sentions un petit peu raffermis dans nos convictions et que nous nous disions, il y a une chose à faire, nous devons rebâtir la chrétienté là où nous sommes. Alors, voyons ce prétexte, voyons cette mauvaise excuse que nous pourrions mettre en avant pour nous dispenser de faire ce qu'il y a à faire, impérativement. Il y a, dit-il donc, des chrétiens dont l'état d'esprit méconnaît l'essence même de la chrétienté, et cette méconnaissance les décourage de travailler à sa réalisation. Que les institutions pensent certains soient bonnes ou mauvaises, cela n'importe pas beaucoup. N'avons pas donc à essayer de travailler à la rechristianisation des institutions, avoir des institutions scolaires chrétiennes, avoir des institutions civiques chrétiennes, avoir des institutions politiques chrétiennes, avoir des organismes médicaux chrétiens. Non, 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 ça n'est pas nécessaire, pensent certains. Que ce soit bon ou mauvais, cela n'importe pas beaucoup. Car les hommes seront toujours mauvais et gâteront les institutions les meilleures. Vous pouvez avoir une école chrétienne et puis il peut y avoir au sein de cette école chrétienne des gens qui n'ont pas l'esprit de cette institution, donc qui vont gâter cette institution. Alors pourquoi se donner la peine de faire une institution chrétienne? Et vous voyez ce qu'il y a en filigrane derrière ce mauvais prétexte, derrière cette fausse excuse. Il faut débusquer, n'est-ce pas, cela. C'est laissons les institutions neutres, laissons les institutions laïques. Après tout, il suffit d'être chrétien, soit, pour soi, ça suffit. Laissons le christianisme se développer, s'épanouir dans les sacristies. Il n'est pas nécessaire de voir le christianisme se répandre dans les institutions et s'épanouir dans les écoles. Il suffit d'être chacun chrétien, chacun pour soi. C'est du libéralisme chimiquement pur. Nous sommes là dans cette erreur qui a été condamnée par tous les papes jusqu'à une certaine période. Celle qui veut, n'est-ce pas, que le christianisme est une affaire purement personnelle, que l'on a simplement à voir pour soi, et c'est tout. Bien. Le Père Calmel continue, et moi avec lui. Au fond, une seule chose est sûre, disent ces bons esprits, une seule chose est sûre, la contemplation. Il n'y a qu'à contempler. On contemple et ça dispense de travailler. Quel bien y aura-t-il, par exemple, parce que la loi civile consacre l'indissolubilité du mariage? Évidemment, le Père Calmel n'en était pas à l'avortement remboursé par la Sécurité sociale. Lui voyait déjà cette question du divorce. Bien. Après tout, il y a toujours eu des gens qui se sont séparés et qui ont piétiné l'indissolubilité du mariage. Alors, pourquoi faudrait-il qu'il y ait une institution, pourquoi faudrait-il qu'il y ait une loi qui protège cette indissolubilité? Il n'y a qu'à légaliser le divorce, puisqu'il y a des gens qui se divorcent. C'est-à-dire, il n'y a qu'à mettre la loi au diapason du fait. Il n'y a qu'à mettre la loi en harmonie avec le fait. Et c'est le fait qui a force de loi. Malheureusement, ce n'est pas ça le christianisme, c'est précisément l'antichristianisme. Le mal, continue toujours ces bons esprits, ces esprits forts, le mal continuera de se faire avec l'hypocrisie en plus. Alors il n'y a qu'à se débarrasser de l'hypocrisie, il n'y a qu'à rendre l'indissolubilité légale. À quoi servira-t-il de s'opposer à la fonctionnarisation croissante des professions pour essayer de promouvoir un ordre corporatif analogue, mais non pas identique à celui du Moyen-Âge? Essayer de retrouver une structure verticale qui casse la lutte des classes. Aucune organisation n'empêchera qu'il n'y ait des victimes de l'injustice, des misérables, des opprimés. Alors, pourquoi? Ces arguments, dit le Père Calmel, sont vicieux. Ils ne tiennent pas compte d'une vérité fondamentale, qui est celle-ci. L'homme n'est pas une sorte de monade soustraite aux influences du dehors. Nous ne sommes pas des petites entités juxtaposées, n'est-ce pas, et certains se rapprochant en vertu des atomes crochus qu'ils auraient les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des petits mondes à nous tout seuls, des monades, c'est un peu cela, soustraites aux influences du dehors. L'homme n'échappe pas au scandale et à l'édification. Nous avons besoin, non pas comme d'un garde-fou, mais au contraire, comme d'un encouragement, nous avons besoin de structures, nous avons besoin d'organisations, nous avons besoin d'institutions qui soutiennent notre faiblesse. Croyez que nous allons pouvoir lutter contre la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, comme ça, tout seul, confinés dans nos petites sacristies? Mais non, nous avons besoin d'institutions qui nous disent, qui nous rappellent, qui nous montrent ce qui peut être fait, ce qui doit être fait. L'homme n'échappe pas au scandale, à l'édification, notamment au scandale et à l'édification qui viennent d'un état de choses sociales, de mœurs et de coutumes approuvées par l'autorité de la loi. Il est certain que lorsque ça devient légal, dans l'esprit des gens, c'est que c'est moral. Or, nous avons dans le cas typique, spécifique, de la loi sur l'avortement, nous avons quelque chose qui est légal, et qui est parfaitement immoral, intrinsèquement pervers. C'est entendu, l'homme est assez faible et assez gâté pour faire le mal sans aucune excitation du dehors, sans aucun encouragement de la société. Mais ce n'est quand même pas rien d'être préservé de cette excitation et de cet encouragement à mal faire. Au lieu d'être préservé de cette excitation, nous sommes au contraire surexcités de partout. Où nous tournions les yeux, où nous ouvrions les oreilles, on nous surexcite en nous disant « Jouis, jouis encore un peu plus, enfonce-toi un petit peu plus ». Dans la direction de cette antichrétienté où il est bien entendu qu'il ne règne pas, qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il n'a pas d'autorité. C'est quand même une chance de moins de mal agir, une chance de plus de rester honnête que d'avoir une institution chrétienne. Il n'est aucunement négligeable de n'être point porté au mal par le scandale permanent et autorisé de telle institution contre nature, et d'être au contraire soutenu dans le bien par une institution honnête et qui est une invitation permanente et autorisée à la droiture et au bien-vivre. Nous avons besoin, encore une fois, non pas comme de garde-fous, mais nous avons besoin comme d'un encouragement permanent, nous avons besoin d'une invitation permanente et autorisée à la droiture et au bien-vivre. C'est ça, la chrétienté. C'est cela. Avoir des lois, avoir des organisations professionnelles, avoir des écoles qui encouragent au bien. Elles ne vont pas, bien sûr, nous empêcher de faire le mal, nous restons ce que nous sommes toujours inclinés au mal, mais elles vont, et c'est déjà beaucoup, nous en dissuader, et d'une certaine façon nous en préserver. Elles ne nous empêcheront pas, c'est impossible, mais déjà elles nous diront, sache que ce que tu fais là est mal. Elles ne nous diront pas, c'est légal, donc c'est moral, vas-y. C'est très important, n'est-ce pas, que d'avoir une chrétienté pour nous soutenir. Et vous lirez, bien évidemment, tout ce chapitre, je m'arrête ici. Je voudrais terminer, merci de ne pas soupirer en disant, enfin, je voudrais terminer en vous disant, et en vous lisant, ce que l'on trouve un petit peu plus haut dans l'ouvrage du Père Calmel, chapitre 25. Pourquoi est-ce que je m'inspire du Père Calmel? D'abord parce que je souscris des deux mains à tout ce qu'il a écrit, parce que j'adhère pleinement à l'enseignement qu'il a dispensé aux religieuses de Saint-Pré, et que je sais que c'est l'esprit que les religieuses de Pouilly font régner dans cette maison. C'est pourquoi je tiens à m'effacer derrière son enseignement. Je ne veux pas que vous disiez, l'abbé Laurence nous a dit, on a eu l'avis de l'abbé Laurence, on a eu le sentiment de l'abbé Laurence. Sachez que ça n'est pas mon avis, encore moins mon sentiment, que j'essaie de vous exposer ce soir, mais bien plutôt les convictions qui ont animé le réformateur de cette congrégation à laquelle vous avez confié vos enfants. Le chapitre en question est le chapitre 25, dans la troisième partie, c'est celui où il est question de la collaboration entre l'école et la famille. Je n'insisterai pas, parce que si vous avez compris ce que le cardinal Pi et le Père Calmel ont expliqué, moi n'étant qu'un porte-voix, cela est la conclusion logique et normale. Si nous ne voulons pas effectivement être des complices de cette déconstruction, de ce démolissement, de cette pulvérisation de la société, si nous voulons être au contraire les artisans de la construction, de la reconstruction, de la chrétienté dont parle Saint Pie X sur le modèle qui nous a été laissé à l'époque de chrétienté, aux âges de foi, nous savons, nous sentons que nous devons travailler ensemble, qu'il ne doit pas y avoir d'opposition, que nous ne devons pas nous tenir un petit peu en décalage. Il ne faut pas, d'une certaine façon, que les enfants qui sont certains jours chez vous et d'autres jours chez nous, sentent comme une forme de hiatus. Il ne faut pas qu'ils se sentent écartelés. Ils doivent savoir, si nous voulons que eux aussi, à leur tour, deviennent des artisans de cette reconstruction, il faut qu'ils sentent qu'il y a une collaboration étroite. Vous comprenez? Et là, je ne sais pas s'il y a quelques enfants dans cette salle, mais vous devez comprendre, c'est à vous que je m'adresse, vous, enfin, Donc cette partie s'adresse aux moins de 18 ans, les grandes personnes peuvent se boucher les oreilles. Vous devez comprendre que cette collaboration dont je vais parler à vos parents dès qu'ils se seront débouchés les oreilles, cette collaboration n'est pas, comment dirais-je, une espèce de complot tramé par vos éducateurs et vos parents sur votre dos, contre vous. Une espèce d'alliance un petit peu suspecte en se disant on est coincé des deux côtés. Quoi qu'on fasse à la maison, ça sera répété à l'école. Quoi qu'on fasse à l'école, ça sera répété à la maison. Si vous avez compris ça, vous n'avez rien compris. Il faudra que je recommence tout, mais on fera là des leçons particulières ce soir. Il faut que vous compreniez, et cette fois-ci les parents peuvent écouter, il faut comprendre que cette collaboration se situe par le haut. Ce n'est pas une collaboration, j'allais dire, c'est pas Interpol, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas une coopération de policiers. Hein. C'est une collaboration qui se situe par le haut, au niveau de l'idéal que nous vous proposons. Et que Dieu, avant nous, vous a proposé. L'idéal de sainteté, l'idéal d'apostolat, l'idéal de croisade, l'idéal de reconstruction de la chrétienté. Le père Calmet, il disait, là la citation sera très brève, il disait, bien évidemment notre but n'est pas de former des femmes qui brillent, heureusement, parce que vous savez que tout ce qui brille n'est pas or, enfin, c'est pas le père Calmet, c'est moi qui me permets de faire là un petit commentaire exégétique, et qu'en général d'ailleurs, ces femmes qui ont brillé à un temps, très vite se sont ternies, et certaines d'entre elles se sont tout à fait éteintes. Mais ça, c'est autre chose. Le but, donc, de l'école dans laquelle vous êtes, n'est pas de vous faire briller. Vos professeurs ne vous astiquent pas au miroir, grâce à Dieu. Mais de vous former. De former des femmes chrétiennes qui soient capables, malgré les contradictions, d'être un ferment évangélique dans leur milieu. Mais voilà, nous sommes en plein cœur de ce que je vous disais au début, avec Saint Pie X et avec Monsieur Lefebvre. Un ferment, malgré les contradictions que nous ne nions pas. Nous sommes dans le monde, bon, on ne va pas fermer nos yeux à la réalité. Nous sommes dans ce monde, nous voyons bien comment il est, mais nous avons à être un ferment dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons être un ferment évangélique dans ce milieu-là, malgré les contradictions. Formation donc en profondeur. Et cette collaboration est nécessaire pour que cette formation se fasse véritablement en profondeur. Ensuite, comme le montage ce matin vous l'a expliqué, je n'insisterai pas trop, l'on montre bien qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner, mais aussi d'éduquer, que l'on ne doit jamais séparer l'enseignement, l'instruction de l'éducation, que l'on ne doit pas établir de coupure entre la doctrine et la vie, que l'on ne doit pas simplement préparer à des diplômes sans méconnaître l'importance de ces diplômes, mais que ça ne peut pas être une fin en soi. Je vais dire qu'au-delà des examens, il y a quand même la chrétienté à reconstruire, ce qui est assez important. L'enseignement de la doctrine chrétienne, de ce fait, est premier, d'un primat non pas décoratif, mais effectif, avec une attention particulière à l'Écriture sainte, surtout au Nouveau Testament. C'est ce que j'appelais ce matin le saupoudrage. J'espère que vous n'envisagez pas vos cours de doctrine chrétienne comme une espèce de chapelure que l'on mettrait au-dessus de vos âmes, comme ça, un petit peu pour leur donner un certain hâle, une espèce de bronzage suspect, puisque le moindre coup de vent, le moindre courant d'air le ferait disparaître immédiatement. C'est le rôle d'ailleurs de la chapelure, que de disparaître dès qu'on souffle dessus. Dieu donc a établi la famille comme la première responsable de l'éducation de l'enfant. La tâche des éducateurs qui sont ici n'est pas de se substituer à la famille, mais de la compléter. Et la tâche des familles est donc de collaborer à ce complément. Cela va sans dire, je n'insiste pas. L'entente porte sur quatre points principaux, docilité et discipline, pauvreté, pureté, foi. Il est évident, dit le père Calmet, que la première disposition d'une élève est de se laisser activement et joyeusement enseigner. Qu'est-ce que ça signifie? Ça n'est pas donc venir ici en traînant les pieds, en serrant les dents, en se disant « va falloir passer encore 5 ans ici ». Il circule quantité de surnoms sur les écoles traditionnelles. Beach est transformé en House Beach. Châteauroux en Château-Trou. Et j'en ai entendu encore un autre sur ça. On ne m'a pas encore dit le surnom qu'on avait donné à l'Institut Saint-Pédis. Ça vaut mieux d'ailleurs. Ça n'est pas ainsi. Ça n'est pas ainsi qu'il faut concevoir votre formation. Cette formation est une formation qui vous est dispensée, donnée avec amour, pour vous permettre d'être ce ferment évangélique, non pas d'être, j'allais dire, de ces chrétiens gentils, des quelques jeunes filles qui subissent cette conférence et qui me subissent à longueur d'année à l'Institut Saint-Pédis et qui ont eu le courage quasi héroïque, et je témoignerai au procès de canonisation qui sera le leur. Les 3 jeunes filles qui sont ici sauront vous dire ce que je pense des gens gentils. On en crève, des gens gentils. Excusez, il y a quelques hommes dont je parle d'homme à homme. On en crève. Ces gens gentils, je vous disais ce matin, incolores, inodores, sans saveur, ils sont gentils. Comme les chiens auxquels on dit d'être gentils, ils font le beau, ils ont là les pattes en l'air, et ils auront le susuc s'ils ont été gentils. Eh bien, moi, je vous dis, mesdemoiselles, ne soyez pas gentilles. Soyez un ferment évangélique, soyez combative, soyez solide, soyez surnaturellement tonique. On a besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de gentilles filles. Nous avons beaucoup plus besoin de personnes qui ont l'esprit de croisade, c'est-à-dire qui ont l'esprit, non pas justement des gentilles filles, mais plutôt des gentils hommes. C'est-à-dire qu'une certaine fierté, une certaine noblesse de caractère, d'âme, et qui se disent « Je suis baptisé, notre Seigneur attend de moi que je sois un ferment évangélique, non pas que je me fonde là dans la masse, mais qu'au contraire je soulève cette masse, parce que je suis un levain ici, et que je fasse quelque chose de ma vie, quelque chose de grand, de noble, d'élevé, pas quelque chose de gentil, gentil, gentil. » Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il est question, bien évidemment, de cette pauvreté, c'est-à-dire, et c'est là qu'on voit combien le père Calmel, en réformant et en écrivant sur ces écoles qu'il a contribué à fonder, combien le père Calmel avait le sens de la chrétienté. Il disait, n'est-ce pas, dans ce chapitre dont je ne vous ai pas donné le titre, n'est-ce pas, il disait « Il faut que chrétienté continue ». Il a voulu, et c'est certain, il n'y a qu'à voir ce chapitre que je suis en train de vous lire, c'est pas collaboration entre école et famille, il faut voir qu'il est en train de faire renaître cette chrétienté. Parce que si l'antichrétienté, c'est l'amour des richesses, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à le trop-plein, lui dit non. Face à cette concupiscence des yeux, cet amour des richesses, cette curiosité insatiable, pauvreté. Face à cette concupiscence de la chair, à cette exaltation de la sensualité, pureté. Parce que nous savons que nous avons été rachetés à grand prix et que nous croyons que le Fils de Dieu est né de la Vierge et que le mariage est un grand sacrement. Il dit que nous ne devons pas nous rendre complices donc de cette antichrétienté, de cette, comment dirais-je, de ce développement exagéré des 3 concupiscences, mais qu'il faut au contraire nous former et nous armer contre cela. Il dit, et là c'est aux parents que je m'adresse, et je voudrais transformer cette phrase qui passe là presque comme inaperçu. Lui qui a bien senti qu'il fallait contre l'antichrétienté, lutter, combattre la concupiscence de la chair. Il disait, nous ne voulons pas qu'on traite la jeune fille comme un objet de convoitise. Et moi, je vous dis clairement, franchement, je voudrais que cette phrase vous frappe là, à l'estomac. Mesdames, messieurs, avez-vous envie que vos filles soient convoitées? Est-ce que c'est cela que vous voulez pour elles? Ou au contraire, avez-vous envie même qu'elles soient simplement désirées? Je crois et je sais que parce que vous aimez vos filles, vous voulez qu'elles ne soient ni convoitées avec ce que cela peut représenter de regard suspect. Dans cette convoitise, je sais et je sens, parce que vous aimez vos filles, que vous voulez qu'elles soient aimées. Et vous avez raison, parce que vous êtes des parents chrétiens. C'est ainsi qu'on doit aimer vos filles. Donc, ma conclusion est toute simple, vous devez la tirer de vous-même. Il faut faire renaître la chrétienté. Monseigneur Lefebvre nous l'a rappelé, il était l'écho de Saint Pie X. Le Père Calmel nous le redit. Bien évidemment, on peut dire c'est dérisoire. Je vous dis, quand c'est chrétien, c'est toujours dérisoire. Au début, c'était 12 hommes, c'était une bergère. Ça sera ici, comme partout dans la chrétienté, humainement dérisoire. Le Père Calmel le savait, lui qui disait « Si une chrétienté doit renaître, serait-ce à la manière de petites îles perdues dans l'immense mer, elle sera un don du cœur de la Vierge. La première des institutions requises pour que renaisse une chrétienté, serait-ce à la manière de petites îles disséminée dans le vaste océan, c'est la famille chrétienne. Et par là, vous voyez le rôle de la femme. » Oui, mesdames, messieurs, j'avais envie de vous dire, mes frères, parce que là, je voudrais vous parler avec mon âme sacerdotale. Vous allez faire renaître la chrétienté. Et vous avez déjà commencé. Il n'y a qu'à voir le nombre d'enfants qui entourent cette maison aujourd'hui, savoir que vous faites renaître cette chrétienté. Il n'y a qu'à voir avec quel soin, avec quel zèle vous suivez la formation qui est donnée par les mères ici à vos enfants pour savoir que vous voulez que cette chrétienté renaisse. Ne vous dites pas, encore une fois, c'est dérisoire. C'est vrai. C'est insulaire. Ce sont des petites îles disséminées. Mais chacune de vos familles est une île. Chacune de vos familles chrétiennes est une île qui constitue là un îlot de chrétienté. Et de la réunion de ces familles, et de la réunion de toutes ces îles, nous ferons une vraie, une grande, une belle chrétienté. Qui elle ne sera pas dérisoire, qui sera l'hommage que nous devons rendre au Christ. Parce que nous, vraiment, nous voulons qu'il règne sur nous. Ainsi soit-il.